En 2022, vous ne l'avez peut-être pas vu, un chiffre étonnant est paru. 43% des jeunes n'ont pas eu de relations sexuelles en 2021. En cause, le rejet de l'acte sexuel comme performance individuelle, mais aussi celui de la sexualité comme espace non pas de liberté, mais d'aliénation. Violence, normes de genre, consentement, désir, plaisir... Ce chiffre a beau être neuf, il n'a pourtant rien de nouveau. Dès les années 60, la libération sexuelle ne l'a pas forcément été. De quoi enfin vous poser ou vous reposer cette question ? Faut-il que j'arrête de baiser pour me libérer ?
En ce moment, il y a des affiches dans le métro qui sont assez insupportables. Les hommes aimeront la plage cette année, ou bien il y a l'année de la femme, tout ce genre de trucs-là. Et c'est pas ce qui me paraît le plus récupérateur parmi les thèmes qu'on a, tu vois. C'est pas ce qui me paraît le plus dangereux pour nous. Le plus perfide, c'est ce que nous développons nous-mêmes. Cette espèce de nouvelle féminité qui est soi-disant une libération, mais qui est une régression, en fait. Mm-hmm. Et moi, j'ai un malaise là-devant qui... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas nouveau. C'est un vieux truc qui date de longtemps, peut-être même d'avant le patriarcat. Quelquefois, je me dis que c'est ça qui a donné le patriarcat. C'est la division entre les femmes, tu vois.
Bonjour Cornelia Moser.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Vous êtes docteur en études de genre, habilité à diriger des recherches en philosophie et chargée de recherche au CNRS, au laboratoire CRESPA, équipe genre travail mobilité à Paris et au centre Marc Bloch à Berlin. On vous doit récemment Libération sexuelle, une histoire des pensées féministes et queer sur la sexualité, paru aux éditions La Découverte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Monique Wittig, grande écrivaine lesbienne révolutionnaire, quand elle déclare en fait qu'elle est mal à l'aise avec cette histoire de nouvelle féminité et notamment sur ce côté d'être libérée?
Oui, il faut se rappeler que ce qui était la nouvelle féminité dont parle Monique Wittig dans cette archive, ça date maintenant de presque 50 ans. Donc la question du nouveau, elle date un peu là-dedans. Et il faut peut-être situer cette archive, en effet, aussi au sein d'un...
Mais c'était quoi la nouvelle féminité dans les années 60?
Dans l'archive, elle a l'air de parler de pub dans le métro, et c'est vrai qu'il y avait aussi, en effet, avec ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, les mini-jupes, la promotion un peu de la Beat Generation, des hippies, etc., d'une forme de libération sexuelle qui serait aussi une libération des femmes en ce qui concerne des mœurs, des traditions, etc. Et en effet, le mouvement de libération des femmes, le MLF en France, s'est constitué en partie aussi comme une forme de critique de cette révolution sexuelle, c'est-à-dire il s'agissait de poser la question de savoir si ça se passe vraiment, si c'était vraiment une si grande libération pour les femmes. Après, il faut situer cette archive également, éventuellement, de Monique Wittig, dans un conflit qu'il y a eu entre les féministes en France et qui touchait à la question justement de la féminité, c'est-à-dire qu'il y avait une partie du MLF qui ne se contentait pas de la question de l'égalité, qui remettait fortement en question le progrès en termes d'égalité, c'est-à-dire elle s'inquiétait qu'un modèle d'émancipation défendu entre autres par exemple par le courant inspiré par Simone de Beauvoir allait conditionner l'émancipation des femmes au fait qu'elle allait essayer de ressembler aux hommes. Donc seulement si les femmes en quelque sorte sont comme les hommes, elles ont le droit d'être libérées. Donc du coup, il y avait aussi tout un engagement autour de cette question de la féminité qui serait à inventer. Donc Lucie Rigaray, elle parle de...
C'est qui Lucie Rigaray?
Lucie Rigaray est une féministe française qui a écrit entre autres le spéculum de l'autre femme, où elle interroge un peu la misogynie de l'histoire dans l'histoire de la philosophie, et elle a notamment justement posé la question de savoir si ça existe même la femme, et elle en vient à la conclusion que la femme ou la féminité que nous connaissons est vraiment l'invention de l'homme en quelque sorte, et donc il faudrait l'inventer encore cette, et donc du coup il y a aussi cette nouvelle féminité là, donc il s'agit un peu de deux nouvelles féminités qui les deux sont un peu datées aujourd'hui, mais la question elle persiste, je pense.
Et cette histoire de féminité là, c'est une question d'image, mais il y a aussi une question d'image images de représentation. Donc ça va être la mini-jupe, mais ça va être aussi une forme de liberté, d'être libérée sur le plan sexuel. Et ça, c'est ce que semble aussi critiquer Monique Wittig. C'est-à-dire que cette féminité, c'est pas seulement une question d'image, c'est aussi une question de représentation de sa propre sexualité comme devant être libérée.
Oui, et aussi, se pose toujours la question de savoir, je pense que nous n'avons pas forcément une réponse unanime à cette question-là, de savoir qu'est-ce que c'est, comment on mesure le degré de libération sexuelle. Est-ce qu'il faut avoir un maximum de partenaires ou un maximum d'orgasmes pour pouvoir mesurer à quel point on est libéré, ou est-ce que la liberté ne peut pas aussi parfois consister justement dans le fait de refuser d'avoir un rapport sexuel, ou comment on définit cette libération sexuelle? Et je pense que l'intervention d'un certain féminisme radical dans les années 70 était justement celle-là, de dire ça ne se passe pas forcément de la même manière pour les hommes et les femmes, et cela en raison des rapports qui dans lesquels se trouvent les hommes et les femmes socialement, économiquement, etc.
L'égalité entre les femmes et les hommes, pourquoi a-t-elle tout de suite été posée, ou justement pas assez vite posée, à l'aune de la sexualité?
Je pense qu'elles l'ont assez vite posé. Quand même, les féministes, dès la fin des années 60, on trouve des publications qui s'intéressent précisément à cette question-là, avec parfois un rejet assez fort de cette libération sexuelle, un rejet même parfois aussi de la nouvelle gauche révolutionnaire, de laquelle, en fait, il faut s'imaginer le mouvement de libération des femmes, en quelque sorte, dans un mouvement paradoxal qui à la fois émerge au sein de cette nouvelle gauche, mais à la fois aussi est un mouvement dissident, en quelque sorte, donc essaye de se constituer en mouvement en soi, avec ses propres questions. Et c'est aussi en cela que ce mouvement il fait peur à la nouvelle gauche et qu'il y a...
Fait peur alors?
Parce qu'il y a eu, très concrètement, il y a eu une perte d'effectifs. Enfin, les féministes, elles se sont organisées entre elles. Elles n'étaient plus les petites mains dans les organisations de gauche. Donc, du coup, elles ont préféré s'organiser entre elles pour leur libération. Et donc, du coup, cela a déplu à d'autres organisations qui voyaient une forme de trahison de la lutte ouvrière, de la lutte révolutionnaire de la gauche.
Et alors, pourquoi ces féministes, dans les années 60-70, ont décidé, en fait, de partir de cette gauche et de fonder elles-mêmes, en fait, un groupe qui allait poser ses propres questions par rapport à la sexualité, des questions qui encore aujourd'hui en fait se posent à nous, hein, je l'ai dit. Il y a l'idée quand même que dans la sexualité on retrouve des rapports de domination, de la violence, il y a la question du consentement qui a émergé depuis quelques années mais qui en fait était là dès les années 60. Pourquoi ces féministes-là sont partis? Est-ce que c'est vraiment à cause de la sexualité, de cette question de rapport à la sexualité, ou c'est parce que il y avait un problème d'organisation et des places des femmes dans les organisations politiques?
On peut observer à différents moments dans l'histoire des moments de bouleversement comme la Commune de Paris, comme la Révolution d'octobre, mais aussi mai 68, que l'air du temps qui appelle à un bouleversement, qui appelle à une libération générale, inspire aussi les femmes, je pense. Et donc, du coup, je pense qu'à ce moment-là, à la fois, ce bouleversement social les inspire et à la fois, elles ont des doutes quant au mouvement existant. Est-ce que ces mouvements-là vont vraiment aussi leur permettre de se libérer à elles? Et donc, du coup, à partir de ce doute-là, elles se sont réunies, elles ont essayé de parler de ce qui n'allait pas pour elles. Elles ont essayé ce qui a été appelé le problème sans nom, en fait, c'est-à-dire ce malaise qu'elles ressentaient dans les organisations, dans leur vie.
Ah, c'est vraiment appelé comme ça, ce problème sans nom?
Oui, c'est justement l'expression de Betty Friedan qu'elle a appelé, par la suite, on va appeler cela le sexisme, mais à ce moment-là, c'est une dérive du mot racisme, mais avant les années 60, ce mot n'existait pas encore. Donc du coup, il y avait un malaise par rapport à comment on dit ce qui cloche. Il y a un truc qui cloche, en fait, il y a un truc qui ne va pas pour nous et on essaye de le dire. Et donc du coup, la journaliste Betty Friedan aux États-Unis, elle Elle part un peu de l'expérience des femmes dans les banlieues aisées états-uniennes qui, pour elle, sont trop focalisées sur la sexualité et sur les hommes, et elle les invite à fonder les propres existences, à pour elle, l'émancipation, ça passe par le travail, donc de ne plus s'intéresser à tout ce cancan. Enfin, en cela, elle rejoint un peu, Monique Wittig, donc laissez tomber la mini-jupe et partez plutôt travailler pour obtenir une indépendance économique. Après, son modèle à elle a été beaucoup questionné aussi par d'autres féministes qui à la fois questionnent si c'est vraiment, donc encore une fois, en ressemblant aux hommes, donc est-ce que dans le travail on est forcément tellement libéré, ou est-ce que le travail n'est pas aussi une forme d'exploitation, notamment quand on pense à la division sexuelle du travail aussi, que les femmes sont souvent un peu abonnées aux positions subalternes, mal payées, etc. Et une situation qui persiste malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Ce que montrent beaucoup de mes collègues sociologues dans leurs études sur le care, etc. Mais oui, enfin, il y a eu aussi un doute au bout d'un moment, et mon livre, il parle un peu de cela, un doute par rapport au, comme vous avez dit tout au début, comme la question d'entrée, est-ce qu'il faut arrêter de faire l'amour ou de baiser pour se libérer? La question se pose tout de suite, est-ce que notre oppression, est-ce que l'oppression des femmes se situe précisément sur le terrain de la sexualité? Est-ce que c'est un lieu privilégié pour l'oppression des femmes qui serait plus important que, par exemple, le domaine du travail, que, par exemple, le domaine des relations familiales, que, par exemple, le domaine de la culture et de l'art? Qu'est-ce qui rend le domaine de la sexualité particulièrement spécifique? Et là-dessus, il y a eu un grand conflit interne aux théories féministes, et il y a eu toute une partie du féminisme qui a mis en question cette importance centrale, cette centralité de la sexualité pour l'oppression des femmes.
Donc, c'est-à-dire la mise, c'est-à-dire que là, il faut peut-être qu'on rentre en fait dans l'histoire justement de cette opposition. Cornelia Moser, et vous la retracez dans votre livre, hein, Libération sexuelle, ça a été l'opposition entre des féministes qui ont vu tout de suite dans la sexualité un peu un nœud de l'égalité femmes-hommes et de la question de la reformulation de la question de la libération, ou au contraire certaines justement y ont vu un problème, mais ce problème était, on peut dire, à supprimer, parce qu'il pourrait suffire finalement de se détourner du sexe pour ne plus avoir en fait ce problème d'inégalité.
Ou même, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes. Donc, à la fois, elles y voient le nœud, et c'est pour ça qu'elles veulent se libérer de la sexualité, alors qu'avant, les camarades freudo-marxistes de la Nouvelle Gauche voulaient libérer la sexualité de la répression par le système capitaliste hétéro-bourgeois. Et par exemple, dans les mouvements comme le phare, etc., il fallait devenir homosexuel pour justement faire tomber le capitalisme. Ben, ces féministes radicales, pour elle, c'est au contraire, pour elle, la sexualité devient vraiment le lieu privilégié de l'oppression des femmes, aussi parce que la question se pose quand même, comment on organise un mouvement des femmes? Qu'est-ce que les femmes blanches, noires, lesbiennes, hétérosexuelles, bourgeoises, aristocrates, prolétaires auraient en commun qui les amènerait à militer ensemble? Pourquoi elles militeraient ensemble? Voilà. Et donc, du coup.
Surtout si, a priori, on n'a pas envie d'être dans une essentialisation de la femme en disant la femme se définit par des caractères inaliénables.
Et du coup, il y avait l'espoir de trouver éventuellement, je pense qu'il y en a, il y a eu par la suite des critiques très fortes de cette prémisse, mais il y a eu l'espoir de trouver dans la sexualité quelque chose, une expérience partagée par toutes les femmes. Dans le viol, dans les violences sexuelles, etc., qui pourrait, par exemple, dans laquelle les femmes pourraient se retrouver et par là, donc, du coup, former un mouvement, former un sujet révolutionnaire qui allait, donc, faire tomber cette structure, faire tomber le patriarcat et inventer un nouvel ordre social.
Nous étions toujours confrontés avec une morale. Une morale qui n'est pas faite pour nous, puisqu'elle est la morale de la famille bourgeoise hétérosexuelle dont notre existence est la preuve d'une sorte de contradiction interne. Faut pas insister trop là-dessus aussi, mais quand même, nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu, il n'y en a plus. Bon, de toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétéroflics, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait, et qui nous feront encore, et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Mais alors, problème, nos rapports avec les différents partis de gauche. C'est-à-dire que, dans les groupes gauchistes ou ailleurs, de même que les femmes sont toujours traitées comme des êtres subalternes et inférieurs, les homosexuels également. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous nous regroupons entre homosexuels. Ce que nous revendiquons tous, c'est l'homosexualité et rien d'autre.
C'était un extrait du documentaire Le Phare de Carole Rousseau-Poulos de 1971. Alors Le Phare, c'est le Front homosexuel d'action révolutionnaire qui justement a théorisé, on peut dire ça comme ça, Cornelia Moser, la sexualité comme un lieu problématique et y a trouvé une réponse, c'est le lesbianisme. Donc là, c'est faut-il arrêter de baiser pour se libérer ? Non, mais par contre, il faut baiser entre femmes ou entre hommes, c'est ça ?
Oui, enfin, la question se pose si vraiment la question de l'homosexualité est une question de baise ou de plaisir sexuel, de pratique de plaisir, j'ai l'impression
que... Ou d'engagement politique d'ailleurs.
Voilà, donc qu'est-ce qu'elles entendent par sexualité, ça c'est un peu vraiment le cœur de mon travail de recherche, c'est-à-dire d'essayer de démontrer que les féministes et même aussi les théoriciennes et militantes LGBTQ ne parlent pas toujours de la même chose lorsqu'elles parlent de sexualité en fait. Est-ce qu'on parle d'une structure sociale d'exploitation et d'oppression ? Est-ce qu'on parle d'une pratique de plaisir? Est-ce qu'on parle d'une identité? Est-ce qu'on parle de l'amour? Est-ce qu'on parle d'une pulsion? Chaque fois, en fait, il y a d'autres choses en jeu. Et en fonction de ce qu'on entend par là, en fait, on va arriver à une conclusion différente de ce qu'il faut faire pour se libérer par la sexualité, de la sexualité, voilà, en fonction de ce qu'on entend par là. Le Phare, en effet, le Front homosexuel d'action révolutionnaire a été fondé en France en grande partie aussi par des militantes du mouvement de libération des femmes. C'est vraiment une spécificité, je pense, par rapport à d'autres mouvements, par exemple l'action homosexuelle révolutionnaire berlinoise, dont il est question dans mon livre aussi. Elle n'émane pas aussi clairement du mouvement féministe. Et donc, du coup, dans un des trois discussions que j'analyse dans mon livre, je parle d'une rencontre un peu surprise entre des militants du Phare qui se sont rendus à Berlin-Ouest à l'époque, en 1973. Mmh. À la première manifestation lors de la Pentecôte en 73 à Berlin, donc la première manifestation homosexuelle révolutionnaire à Berlin-Ouest qui s'est tenue en rang et en ordre socialiste comme il faut et qui partait de l'idée qu'il fallait donc combattre l'oppression des homosexuels comme un cas spécifique de la répression sexuelle générale dans le capitalisme bourgeois. Les folles folles, c'est le terme utilisé pour désigner, en fait, d'une certaine manière, homosexuelle, de transgresser les normes de genre, en fait, à l'époque.
Donc, ce groupe-là se nommait lui-même, les membres de ce groupe se nommaient eux-mêmes folles, c'est ça?
Oui, c'est une manière de s'adresser la parole. Enfin, on parle des folles politiques au sein du Phare. Par exemple, il y a le groupe des Gasolines qui était très connu pour sous ce terme-là. Et donc, du coup, c'est une appropriation d'une injure, c'est sûr. Et donc, du coup, c'est une manière de s'approprier des signes féminins, justement pour retourner le stigmate de l'homophobie, en fait, de justement incarner en quelque sorte toutes les peurs que la société exprime envers l'homosexualité, justement pour vraiment faire exploser cette violence-là. Et donc,
En 73, il y a eu la réunion de plusieurs justement groupes, associations de militants homosexuels.
Pas du tout. En fait, ils ont débarqué sans que cela se sache. J'ai parlé avec un des membres fondateurs de la HAV, donc de l'action homosexuelle révolutionnaire de Berlin-Ouest, qui a dit que ils n'étaient pas invités. Ils ont débarqué comme ça, en vêtements coloriés, en criant, en revendiquant des Volkswagen roses pour tous, et en fait. Les autres militants étaient très choqués par leur apparition. Et enfin, il y avait ceux qui étaient très choqués, mm-hmm. qui les ont traités d'anarchistes, qu'est-ce qu'ils font là, ils foutent le trouble. Et, enfin, je pense qu'il y avait aussi une nervosité par rapport au fait, pour la première fois, manifester en tant qu'homosexuel dans la rue, aussi dans une ville partitionnée par la guerre froide, etc. Il y avait tout ça. Et il y avait d'autres militants du même groupe berlinois qui étaient émerveillés, qui étaient vraiment ravis de rencontrer ses camarades français. Et il y en avait aussi des Italiens qui étaient là et qui ont donc du coup créé un groupe au sein de cette organisation-là. Et donc ce qui se rencontre là comme type d'analyse théorique en quelque sorte, c'est en fait le cadre freudo-marxiste justement de la révolution sexuelle qui voit considérer l'oppression des homosexuels comme cas spécifique de la répression générale de la sexualité dans le capitalisme bourgeois, et c'est l'analyse du phare qui, au contraire, va interroger la place de la domination masculine, que joue la domination masculine dans l'oppression homosexuelle. Donc, est-ce que les homosexuels sont opprimés par un système similaire ou même par le même système par lequel sont opprimés les femmes? Et donc, du coup, cette position-là, en France, défendue entre autres par Guy Hockenheim, donc appelle aussi à une forme d'alliance entre lutte féministe et lutte gay, lesbienne ou homosexuelle.
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 70, c'est ce que vous avez déjà commencé à formuler, Cornelia Moser, c'est que ce nouage un petit peu originel entre politique et sexualité, notamment, on va dire quand même à gauche, politique à gauche et sexualité, va être dénoué avec en fait des militants qui vont avoir une vision de la sexualité qui va être adossée à une grande lecture politique marxiste, donc en termes de lutte des classes, et donc qui vont s'interroger sur la sexualité comme une des questions parmi les autres sur les inégalités sociales, alors que à partir de 73, on a l'apparition donc d'autres militants qui vont préférer faire de la sexualité un véritable enjeu, déconnecté de tout parti, comme en fait une manifestation importante d'une domination, c'est ça. Et donc là, on va avoir un dénouage entre politique, au sens partisan, et sexualité, c'est ça?
Oui, après, je pense que le lien entre sexualité et politique, il existait avant les années 60 même. Il existait même avant la dite révolution sexuelle. Il existait déjà lors de la révolution d'octobre. Il existait déjà au moment des Saint-Simoniens. Il existe déjà aussi même dans les courants théoriques comme la psychanalyse ou la sexologie moderne, en fait. Enfin, je pense que le fait que la sexualité soit un enjeu politique, ça s'est posé depuis beaucoup plus longtemps. La question, c'est un peu comment intervenir. Ben, même aussi, il y a eu des interventions politiques sur le terrain de la sexualité avant les années 60. Ce qui se pose dans les années 60, c'est vraiment d'organiser ce mouvement de masse, en fait, mouvement MLF, le mouvement féministe, et qui se joue quand même à l'échelle mondiale. Donc, c'est dans beaucoup de pays, en fait, qu'on peut voir émerger ce genre de mouvement. Je pense que c'est aussi ce qui inspire, ce qui touche beaucoup de monde, en fait, c'est de se sentir aussi appartenir à un changement général. Moi, en fait, c'est vrai que l'archive que nous venons d'écouter du phare, il peut en quelque sorte faire sourire aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que j'ai passé mon temps à revoir ces vieux textes? C'est aussi parce que ils me touchent en quelque sorte, parce que je sens dans ces textes-là une véritable envie que le monde change plus radicalement que juste une fin d'une discrimination. Là, on sent le désir d'un vrai changement, de mettre notre vie un peu au service de nos plaisirs et non plus accepter le fait de s'inscrire dans une logique de produire de travail, de profit, etc. Donc ça, c'est une vraie tentative de se réapproprier nos vies qui m'a touchée dans ces anciens textes.
Mais ce qui est intéressant, comme vous le disiez aussi, Cornelia Moser, c'est qu'à partir de cette année 73, quand il y a un conflit entre deux types d'engagement de ces militants homosexuels, on voit bien qu'il y en a un qui, d'un côté, ceux qui vont être choqués par l'apparition donc de ces militants qui se disent folles et qui vont faire la fête, qui demandent des Volkswagen roses et qui du coup vont être heurtés par le fait que ce ne soit plus la lutte des classes qui prime, mais finalement une lutte pour la sexualité. Et là, on va quand même avoir deux deux manières de problématiser la sexualité très différentes. C'est-à-dire que les seconds vont vouloir investir ce champ et vont vouloir le rechercher, voire le préserver. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, tout à fait. Donc cette rencontre a déclenché un très très fort débat que donc du coup il a été surnommé la dispute des folles, le Tuntenstreit, au sein de la AAV, qui a mené à l'explosion du groupe. Le groupe il n'a plus continuer comme ça. Et donc, du coup, il y a eu, en effet, cette position très freudo-marxiste qui a dit, de toute façon, le capitalisme, rendant toutes choses égales, va finir par aussi réifier les homosexuels comme toute autre chose. Donc, du coup, c'est juste une question de temps jusqu'à ce que l'homosexualité va se ranger comme un autre type de marchandise sur le marché. Et ça ne va rien. Il n'y a rien de révolutionnaire à creuser là-dedans. Il y a eu cette position donc qui recherchait justement dans l'homosexualité peut-être un pouvoir ou une potentielle révolutionnaire qui pourrait justement faire tomber le capitalisme bourgeois. Donc ce qui passe par une critique de la famille, ce qui passe par l'envie de justement, enfin, et ça reste vrai jusqu'à aujourd'hui. Nous savons pertinemment que les inégalités sociales se reproduisent par l'héritage, et l'héritage il est organisé par les familles. Donc c'est vrai que la question se pose de savoir, enfin, elle interroge toujours la famille hétérosexuelle comme lieu d'organisation des inégalités dans notre société. Ça c'est une question qui persiste. Et il y a aussi dans ce débat une troisième position qui a émergé et qui va par la suite incarner un peu ce qui va devenir les politiques antidiscriminatoires par la suite, et qui vont donc essayer de faire une politique vraiment autonome en quelque sorte, donc au nom des homosexuels, c'est-à-dire essayer de définir quelque chose qui serait les intérêts des homosexuels, qui vont devenir donc un partenaire social politique dans la société, et en quelque sorte s'intégrer, ce qui par la suite a été critiqué par d'autres, comme par exemple Lisa Dagen, comme une forme d'homonormativité, c'est-à-dire une voie d'intégration dans la société inégalitaire existante.
Ça va te calmer les butcheuses.
Mais je l'ai pris.
Mon Dieu, de bordelette de merde, mais qu'est-ce qui t'a fait?
Mais rien de spécial.
Que des choses normales?
Mais oui, je te jure.
C'est pas possible. Il a dû te faire des trucs qu'on connaît pas.
Non.
On connaît tous les trucs.
D'ailleurs, c'est moi qui ai tout fait.
Comment ça? D'habitude, tu fais rien, toi.
Bah oui, mais seulement là, il pouvait rien faire, il était paralysé.
T'es le trac.
Quoi tu parles?
Alessandro.
Tutto va bene. Sì. Tutto va bene.
Tutto va bene.
Tutto va bene.
Sì, Alex.
Quando facciamo l'amore. Mm-hmm.
facciamo l'amore. Quando facciamo l'amore, l'amore.
Tout va bien quand on fait l'amour, c'est Alex Rossi qui le dit, mais pas forcément, puisque c'est tout l'enjeu de notre discussion aujourd'hui avec vous, Cornelia Moser. Vous êtes l'autrice de Libération sexuelle, une histoire des pensées féministes et queer sur la sexualité qui est parue aux éditions La Découverte. Et vous venez justement de découvrir un extrait des Valseuses, ce film de Bertrand Blier qui est sorti en 1974, qui est un film mythique en France et qui est dans lequel en fait on voit donc cette jeune femme interprétée par Miu Miu dire enfin, après plusieurs minutes de film, dire qu'elle a enfin atteint l'orgasme. Alors ce film maintenant est qui a eu un succès, qui est très connu, qui est voilà, est assez, en fait quand on le revoit aujourd'hui, est assez troublant, voire choquant par la manière en fait dont la sexualité de cette femme est mise en scène, et notamment dans le fait qu'elle doive jouir à tout prix. Et il y a quand même cette idée dont on hérite encore sur la sexualité, qu'elle devrait forcément être libérée, libératrice. Et on voit bien en fait que cette idée-là devient presque une injonction qui est aliénante par elle-même, ce qui est quand même un paradoxe.
Oui, surtout si, comme dans l'archive que vous avez, que vous nous avez montré, cette performance de libération sexuelle doit être faite selon les normes dont les hommes savent tout. Visiblement, ils disent qu'ils en savent tout et ils veulent contrôler. Donc, bien sûr, il y a eu. Donc, ça c'est peut-être un des effets négatif de la dite révolution sexuelle qu'ont critiqué les féministes dans les années 70, quand elles ont dit il faut arrêter avec cette injonction à la libération sexuelle. Il faudrait à ce moment-là partir de l'idée que la sexualité, s'il faut la libérer des répressions sociales qui existent, qui ont existé par le passé, par l'Église, par l'État, par la famille, par le patriarcat, etc. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont en effet pu s'approprier leur corps, leurs désirs, etc. Donc nous avons vu avec les travaux, par exemple, de Cher Height, comment encore dans les années 70...
Qui est Cher Height?
Cher Height, c'est une chercheuse qui a fait le premier rapport sur la sexualité féminine, et elle a vraiment fait une enquête empirique qui a révélé à quel point les femmes n'avaient jamais justement expérimenté d'orgasme. En fait, un peu la misère sexuelle des femmes, elle l'a exposée scientifiquement, et je pense que ça c'est quand même une question réelle qui se pose. Les féministes radicales des années 70 ne l'ont pas posée de la même manière. Pour elles, en fait, la sexualité est elle-même le problème, en fait, c'est-à-dire la sexualité est le lieu d'oppression, de l'oppression des femmes, et donc du coup elles doivent vraiment se libérer de cela et choisir autre chose. Donc pour certaines c'était le lesbianisme politique, c'est-à-dire plutôt coucher avec des femmes pour pouvoir se libérer, et pour d'autres en fait, notamment au début des années 80, la question se posait si vraiment, enfin ça c'est un peu plus tard, donc du coup, si vraiment la sexualité c'est vraiment l'endroit où on peut trouver tous les maux possibles du patriarcat, ou si ça n'est pas juste un autre. Donc on trouve en effet du sexisme dans le domaine de la sexualité, mais peut-être pas plus ou moins qu'on trouverait dans le domaine du travail, dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'art, etc. Et donc du coup, la question c'est de savoir, est-ce que à ce moment-là il faut arrêter de faire l'amour, ou uniquement faire l'amour avec les femmes, ou carrément réduire toute activité sexuelle à la masturbation, comme l'avait proposé à un moment Tigress Atkinson.
Qui est qui, justement, parce que c'est aussi une des options effectivement qui qu'on peut choisir.
Oui, on peut choisir, et je pense que c'est important aussi contre certaines visions religieuses un peu extrêmes qui vont nous raconter que c'est mauvais parce qu'on va aller en enfer ou je sais pas quoi. Donc du coup, je pense que c'était important aussi de s'approprier le plaisir. Et si on regarde un peu dans nos sociétés, j'ai des collègues qui travaillent sur par exemple l'éducation sexuelle et qui ont relevé que dans les écoles françaises, dans les manuels scolaires, en fait, on ne parle jamais de... Enfin, il y a vraiment très très peu de livres qui évoquent même l'existence du clitoris, et qui a tout un travail d'éducation sexuelle qui faisait partie des revendications de la révolution sexuelle des années 70, qui reste à faire en fait, qui aujourd'hui, enfin, je pense qu'on n'est pas sorti de la misère sexuelle, et notamment aussi les jeunes auraient fortement besoin ou envie peut-être d'avoir d'autres renseignements sexuels que seulement la consommation de la pornographie sur Internet.
Mais est-ce que cette question de la sexualité, qui à partir du moment où elle a été investie comme champ de pensée, mais aussi en fait champ politique, n'a pas aussi mis les individus face à quelque chose qui ne relève pas du choix? C'est-à-dire que par exemple le lesbianisme est peut-être une posture politique, mais c'est aussi un désir. Donc comment en fait articuler cette question de l'engagement politique avec ses propres désirs qui souvent d'ailleurs se heurtent, et c'est ça souvent qui crée d'ailleurs des tensions, ce désir de domination ou d'être dominé dans la sexualité qui nous semble incompatible avec notre idée égalitariste qu'on peut avoir entre les hommes et les femmes, ou entre les femmes et les femmes, entre les individus.
Oui, tout à fait. Et justement, c'était l'objet d'un débat interne au féminisme au début des années 80, les Feminist Sex Wars, où certaines féministes ont mis en question justement cette idée centrale enfin l'idée que la sexualité serait centrale à la domination des femmes et qu'elle serait uniquement un terrain d'oppression, de violence, de viol, etc. En revendiquant que justement, enfin en quelque sorte, elles récupèrent un peu l'idée initiale de la révolution sexuelle, mais elles veulent à la fois critiquer donc le sexisme dans ce domaine de la sexualité, tout en revendiquant la possibilité de rechercher du plaisir, donc de trouver sans faire l'objet de regards dénigrants, infligeant la honte par rapport aux libertés sexuelles que puissent rechercher une femme aussi.
Mais ce qui repose, donc la question que je vous posais, Cornelia Moser, cette question du choix. En fait, le problème aussi auquel nous confronte cette réflexion sur la sexualité, c'est que le désir peut certes se contrôler, mais ne se choisit pas complètement.
Tout à fait. Parce que ce serait vraiment partir de l'idée que le désir serait genre une force naturelle et je pense qu'on a suffisamment d'éléments qui nous portent à croire que les désirs aussi se forment dans une société qui, elle est structurée par certaines hiérarchies, par certaines structures de pouvoir. Et donc, du coup, en effet, je pense que le fait qu'il y a beaucoup de... que les personnes... En fait, que, par exemple, que c'est beaucoup plus difficile d'assumer son homosexualité ou un désir, on va dire, divergent ou dissident de la norme hétérosexuelle montre à quel point, en fait, ça reste aujourd'hui toujours très, très difficile. Et ce qu'elle a essayé de dire quand Gail Rubin, une anthropologue états-unienne qui était une des actrices des Sex Wars, quand elle a dit qu'en fait, on pourrait considérer la sexualité non seulement comme... Enfin, elle refutait l'idée selon laquelle la sexualité serait vraiment le facteur clé qui détermine le genre, mais elle disait que la sexualité peut aussi être vue comme un vecteur d'oppression en soi, c'est-à-dire qu'il y aurait certaines formes de sexualité qui sont reconnues, qui sont encouragées, qui sont même subventionnées en France et en Allemagne. Enfin, maintenant, il y a aussi le mariage pour tous, mais pendant longtemps, en fait, il y avait vraiment une subvention économique d'un certain modèle de s'organiser sexuellement et d'autres formes, donc plus on parle par exemple de formes dissidentes, minoritaires de sexualité avec des partenaires changeants, par exemple contre rémunération ou alors par exemple en public ou avec des jouets ou enfin il y a plein de enfin ça
des il y a une démocratisation des pratiques sexuelles d'une certaine manière.
On nous dit ça souvent dans les médias. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je me pose parfois la question. J'ai l'impression que, notamment pour les femmes, la grande liberté sexuelle, elle n'y est peut-être pas toujours. Ou j'ai l'impression qu'elles doivent toujours composer avec un regard très jugeant et qui n'est pas le même sur les hommes qui, par exemple, chercheraient dans les conquêtes sexuelles, vont toujours être beaucoup plus valorisants qu'une femme qui risque jusqu'à aujourd'hui d'être traitée de fille légère ou je sais pas. Enfin, elle doit composer avec ces structures, donc ils persistent ces structures-là, et donc c'est un peu de cela qu'elle voulait parler, Gail Rubin, et notamment aussi, voilà, si vous aimez des femmes, je pense que vous avez toujours aussi à composer avec des... On nous dit, oui, il y a eu des progrès, il y a le mariage dit pour tous, mais il y a aussi toujours les agressions dont nous lisons les nouvelles, malheureusement, tous les quelques jours, et qui persistent, et qui sont parlées de toutes les situations quotidiennes quotidiennes qui sont difficiles à vivre dans les familles, dans les cercles d'amis, au travail, etc.
Vous nous avez parlé, Cornelia Moser, des sex wars. On va entendre tout de suite la voix d'Andrea Dworkin qui, justement, a pris position dans ce conflit. Et vous allez nous expliquer en quoi consiste ce conflit. On écoute tout de suite sa voix.
Il y a eu une explosion de pornographie violente dans ce pays, ce qui énerve les gens qui se demandent même si la révolution sexuelle ne va pas trop loin. Une ville était tellement furieuse qu'elle a pris la mesure extraordinaire d'interdire la pornographie, mesure qui a causé autant de problèmes qu'elle était censée en résoudre. Cette ville, c'est Minneapolis, dans le Minnesota. Minneapolis a considéré la pornographie d'une façon différente, non plus à travers les lois d'urbanisme ou de bienséance, mais via le droit civil. C'était un concept qui n'avait jamais été considéré par une mairie. L'idée que la pornographie était une forme de discrimination sexiste qui portait atteinte aux droits civils des femmes.
Nous vivons dans un monde où les femmes sont tuées, et elles sont tuées par plaisir. Elles sont violées par plaisir. Nous avons des célébrations publiques du viol des femmes dans ce pays. Et après, quand quelque chose comme le viol collectif du gang de New Bedford se produit, les gens disent « Comment est-ce qu'on peut assister à ça sans rien faire ? Pourquoi est-ce que les gens feraient quelque chose ? Ils dépensent de l'argent pour aller dans des cinémas pour assister à ça sans rien faire. »
C'était donc la voix à l'instant d'Andrea Dworkin. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui est Andrea Dworkin, Cornelia Moser?
Tout à fait. C'est donc une féministe radicale qui a fait partie dans les années 80 justement de ce débat qu'on vient d'évoquer, donc les feminist sex wars.
Donc ça n'est pas la guerre des sexes. C'est les guerres des sexes, c'est ça, oui. Entre les pro-sexes et les anti-sexes.
Tout à fait, et donc du coup parfois je ne traduis pas alors que je dirais peut-être parce qu'il y a eu en France toute une polémique et une mauvaise traduction de ce que c'est qui construit une forme de singularité française d'un féminisme de la séduction par opposition à un soi-disant féminisme américain qui produirait la guerre entre les hommes et les femmes, et donc du coup ça s'est mis beaucoup de confusion. Ça n'a rien à voir avec ce dont je parle. Ce dont je parle, c'est donc un débat au début des années 80 au sein du féminisme, de la recherche féministe, mais aussi du militantisme féministe aux États-Unis, et qui tournait entre autres autour des thèmes de la pornographie, comme nous avons entendu, mais aussi autour des questions de subcultures lesbiennes, de sadomasochisme, de subcultures de bar, de culture de butch femme, etc. Et la question, c'était de savoir si la pornographie représentait justement une infraction aux droits civiques des femmes. Et Andrea Dworkin a pris la position là-dedans de dire, justement, comme vous l'avez entendu, qu'en effet, là, pour elle, la pornographie, c'était vraiment une infraction, une forme de rabaissement des femmes qu'il faudrait donc interdire pour améliorer la situation des femmes dans le monde. Et pour donc défendre ce genre de position, ces féministes contre la pornographie se sont même aussi attaquées aux subcultures lesbiennes qui produisaient elles aussi des pornographies lesbiennes, etc. Et donc du coup il y a eu un grand conflit, une attaque assez violente qui s'est mal passée pour beaucoup de personnes qui en ont payé les frais dans leur vie, dans leur trajectoire de vie.
Mais violent jusqu'à quel point?
C'est violent au point où par exemple ça a explosé, je pense en 82, en avril, au Barnard College à Manhattan, à New York, où un groupe de chercheuses féministes a essayé de justement poser cette question dont il était question plus tôt dans l'émission, de savoir quelle est la place de la sexualité dans l'oppression des femmes. Mm-hmm. Et donc, du coup, elle voulait un peu mener toute une enquête sur les différents aspects de la sexualité et savoir s'il peut y avoir, en plus des dangers que cela représente visiblement pour les femmes, aussi des possibilités de plaisir. Et donc du coup, les féministes de Women Against Pornography, donc des femmes contre la pornographie ou des femmes contre les violences faites aux femmes, sont intervenues, elles sont intervenues à l'entrée de ce colloque en disant qu'il y avait des pervers qui étaient réunis pour ce colloque-là. Elles ont dénoncé les organisatrices.
Les pervers étant les chercheuses féministes elles-mêmes.
Et ouais. Elles ont dénoncé les organisatrices organisatrice auprès de leur financeur, auprès du collège, qui a saisi le programme du collège. Enfin, ça a été vraiment assez violent. Et ça s'est pas arrêté à ce moment-là, ça s'est poursuivi. Enfin, il y a Gail Rubin qui en a fait un texte qui s'appelle Blood Under the Bridge. Donc, ce n'est pas l'eau qui a coulé sous le pont, mais du sang. Dans la mesure où ça s'est, notamment pour elle, ça s'est très mal passé, cet épisode-là. Et donc, du coup, si vous voulez, je peux vous dire aussi la position un peu adversaire, c'est-à-dire ce qu'elles essayaient de dire par rapport à ce que vient d'exprimer Andrea Dworkin dans l'archive qu'on vient d'entendre. C'était qu'elle disait, en effet, il peut y avoir dans la pornographie des violences faites aux femmes, comme il y en a aussi dans d'autres films, dans les films d'action, dans les films d'horreur, dans les films, enfin même en dehors du cinéma, hein, il peut y avoir même dans la musique, on a déjà assisté à des dénigrements des femmes, il y en a dans tous les domaines du monde, mais en fait, la critique des féministes qui par la suite ont été appelées pro-sexe, c'était de dire que c'est le propre de la pornographie que de rabaisser les femmes. Et elle soupçonnait qu'en fait, ces féministes radicales faisaient peut-être une alliance avec des forces conservatrices et que ça passe très bien, en fait,
Presque une critique presque complotiste, en fait, d'un certain féminisme qui serait consentant ou conciliant ou aveugle à ses propres, aux propres sphères d'oppression, c'est ça?
En quelque sorte, les deux partent d'analyses très différentes. C'est ce que j'essayais de montrer par mon analyse dans mon livre, en fait, parce que les unes partent vraiment de cette analyse que nous avons maintenant beaucoup discutée, c'est-à-dire les femmes, elles sont comme une classe opprimée, exploitée par les hommes. Donc, du coup, il faut, donc, par ce genre de mesures juridiques, essayer de sauver ces pauvres femmes qui travaillent dans la pornographie ou qui seraient humiliées, enfin, toutes les femmes qui seraient humiliées par cette pornographie-là. Je pense que les dites pro-sexe, elles ne disent pas qu'il ne faut pas critiquer et même intervenir contre de la violence faite aux femmes ou contre du sexisme dans la pornographie, comme il faut aussi intervenir contre l'humiliation et le sexisme dans tout autre film, dans un film d'action, dans un film d'humour. Enfin, on connaît tous ces films-là où il y a des violences extrêmes aussi faites aux femmes dans d'autres films. Donc pourquoi est-ce que c'est précisément quand il est question de sexualité? En fait, ces féministes-là, elles ont fait aussi des tours où elle montrait des diapos, des scènes SM, en montrant comment la sexualité dans la pornographie était violente. Et donc, du coup, il y avait d'autres féministes, notamment lesbiennes, qui pratiquaient le BDSM et qui disaient, en fait, nous, on est déjà stigmatisés dans cette société. Si maintenant, vous faites croire que... En fait, si ne vous faites aucune distinction entre le fait si une personne a consenti à jouer ce jeu dont il y a des images que vous montrez, ou si une personne, on lui a imposé cette situation abstraitement, en fait, c'est problématique aussi. Et là, on vient à la question de consentement que vous avez évoqué tout à l'heure et qui est en effet très épineuse dans la mesure où tout à fait. Et il faut prendre en compte le fait que notre consentement a toujours lieu aussi. Elle est très difficile, la question du consentement. Il y a Manon Garcia qui vient de publier un livre sur cette question-là. Et en effet, il y a plein de zones grises qu'il faut examiner, qu'il faut discuter. C'est une question difficile, mais justement, parce qu'elle est difficile, on ne peut pas non plus dire que toutes les femmes qui consentent à un truc qu'Andrea Dworkin a décidé qu'il ne faut pas faire, qu'elles sont toutes elles disent que ce sont des malades mentales ou des femmes qui sont sous influence. Enfin, on ne peut pas non plus enlever aux femmes la possibilité de dire oui.
Est-ce que il s'agit, parce que ce que pose aussi Andrea Dworkin, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire de dire en fait, est-ce qu'il faut à tout prix sauver la sexualité? On en vient presque à ça en fait. Est-ce que finalement le mouvement anti-sexe n'avait pas raison là-dessus? Finalement, la sexualité est un domaine pourri. Et finalement, c'est peut-être l'essence de l'homme d'avoir une vie sexuelle, mais en fait, on peut aussi s'en passer. Est-ce que finalement, c'est pas ça aussi la solution?
Pour elle, c'est clairement le cas. Après, il y en a d'autres féministes qui sont pas forcément d'accord, et je pense que ce serait aussi... moi, je pense que c'est difficile aussi, par exemple... il y avait, par exemple, la très épineuse question de la pénétration. Est-ce que toute femme qui accepte une pénétration est déjà soumise? Il y a, chez Andrea Dworkin, en fait, chaque pénétration est un viol. Donc du coup, pour elle,
voilà, il faut quand même bien dire que chez Andrea Dworkin, c'est pas seulement la pornographie.
Je pense que c'était Catherine McKen qui l'a dit.
Et la prostitution qui sont problématiques. Et ça, en fait, d'ailleurs, n'importe qui peut trouver ça problématique. Là, c'était même l'acte sexuel en tant que tel avec pénétration.
Tout à fait. Et donc du coup, est-ce que du coup, une femme qui a eu un rapport avec pénétration et qui a pris son pied, est-ce que du coup elle doit se sentir aliénée, donc en décalage avec le mouvement, alors que elle est féministe, mais elle a envie que les choses changent, mais donc du coup elle se dit ah, je dois être vraiment très aliénée d'avoir pris plaisir dans ce... Enfin, je pense que cette vision très structuraliste, elle a aussi ce défaut là et c'était d'ailleurs un des conflits en France aussi au sein de la revue Questions féministes, qui a opposé Monique Wittig, que nous avons entendu plus tôt, et qui a dit donc une lesbienne n'est pas une femme, et Emmanuel Delessès,
elle voulait dire par là une lesbienne n'est pas une femme, c'est-à-dire n'est pas soumise aux hommes et n'est pas définie en opposition ou par différence avec
les
hommes.
Parce que pour elle, les femmes existent uniquement dans un rapport hétérosexuel. Mmh. Et donc du coup, Emmanuel Delessès, elle a dit, dans une société où les femmes, elles sont assignées à toujours être l'objet du désir, où on nie le fait que la femme puisse aussi être, comme c'est dans l'extrait des valseuses, se sentir autrice, enfin, se sentir sujet de son désir, est-ce que le fait, justement, d'être sujet désirant, n'est pas déjà aussi quelque chose de féministe qu'il s'agit de défendre, en fait? Est-ce qu'au moment où nous disons aux femmes encore comment elles ont le droit de désirer ou comment elles n'ont pas le droit de désirer, est-ce que c'est pas une nouvelle forme aussi d'oppression? Est-ce qu'on peut pas laisser aux femmes un peu leur trajectoire de désir qui change au cours d'une vie, qui change par les rencontres qu'on fait, etc., et qui peuvent être parfois mieux et parfois moins bien, et donc du coup de composer avec toutes ces structures, mais aussi avec les expériences qui ne sont pas que négatives et qui peuvent être inégales, en fait.
Alors, comment défendre la sexualité encore, sachant que ce que vous venez de dire, Cornelia Moser, pose une question qui, moi, en fait, me passionne, c'est jusqu'où est-on sûr que nos choix, que nos actes, notre manière de faire l'amour est une chose qui n'appartient qu'à nous et n'est pas déterminée. C'est-à-dire que quand je dis oui ou quand je dis non, qu'est-ce qui a présidé à ce oui ou à ce non? Est-ce que c'est tout un tas d'injonctions que j'aurais intériorisées ou est-ce que c'est une véritable liberté? Et ça, c'est presque... La sexualité nous met presque face à ce mystère.
Tout à fait. C'est la question philosophique du libre arbitre. Et je pense que dans la sexualité, comme dans tout autre domaine, il n'existe pas. Donc, nous ne pouvons pas être sûrs que...
Mais dans la sexualité, c'est plus problématique que pour acheter un vêtement. Parce que bon, si je mets un jean et que je le fais parce que tout le monde met un jean, je pourrais dire que je suis libre de le faire ou que je suis déterminée par la société qui m'a proposé ça et que j'ai pas réfléchi à mon acte. Mais quand il s'agit de dire oui ou dire non pour la sexualité qui engage mon intimité, là, il y a un tournant quand même qui est plus fort, et c'est peut-être pour ça que
cette
sexualité...
intimité, il n'a pas existé toujours en tant que tel, il n'est pas identique partout dans le monde et dans l'histoire, donc du coup il fait déjà partie aussi de cette construction sociale et politique. Qu'est-ce qui est considéré comme être intime? Alexandra Kollontai dans la Révolution russe, elle disait que pour elle ce serait mieux si la sexualité aurait un peu la même importance que de boire un verre d'eau. Quand on a soif, on boit un verre d'eau. Oui. Donc pour elle c'était la même chose pour la sexualité. Pour beaucoup de personnes, ça ne se passe pas forcément comme ça, mais en fait, je pense que même Gail Rubin a dit aussi qu'elle espère qu'un jour, la sexualité, elle sera en quelque sorte vraiment banale, dans la mesure où justement, même aussi par rapport à la question des violences sexuelles, il y a parfois un peu un surinvestissement de la sexualité ou une manière j'espère que je n'y contribue pas avec mon livre, une manière de vraiment mettre trop de choses, trop d'espoir, à la fois on veut trouver notre vérité, notre identité, qui nous sommes, quel est notre lien aux autres, et tout ça dans la sexualité, parfois
que ce soit
même
à travers notre orientation sexuelle ou
la transcendance carrément par des pratiques spécifiques pour lesquelles il faut faire des stages, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment mettre autant d'importance dans la sexualité? La question se pose, et en même temps, je pense que c'est paradoxal comment à la fois on surinvestit ce domaine et à la fois on en a quand même toujours pas réussi, je me répète, on n'a toujours pas réussi à mettre en place une éducation sexuelle de base, un peu, ne serait-ce que sur les différents types de formes de plaisir, de pratiques de plaisir, les différentes identités sexuelles, etc. Il y a toujours une grande réticence qui contraste avec ce surinvestissement.
Est-ce que Cornelia Moser, on peut dire quand même que là actuellement, parce que dans votre livre vous contestez la répartition, enfin disons la grille de lecture par vague féministe, la première, la deuxième, la troisième, et donc en ce moment nous serions en train de vivre la quatrième vague féministe. Est-ce qu'on peut dire que la sexualité a échappé à ce partage historique des vagues féministes, et en ce moment quelle approche avons-nous de la sexualité, puisque nous ne sommes plus dans les années 80 ni dans les années 60 ou 70, les questions perdurent, mais néanmoins nous ne sommes pas dans des rapports de force entre anti-sexe, pro-sexe comme il y en a eu quelques années. On en est où en ce moment, et la sexualité en est où par rapport à ces vagues féministes ?
Oui, je pense qu'on peut dire que la sexualité, elle a quand même toujours occupé les féministes en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, avec des notions très très différentes, parce que des acceptions très différentes et des éléments, des questions très différentes qui sont groupées sous cette notion de sexualité. Mais la question, elle a toujours été très présente depuis l'existence du féminisme. Il y a eu en effet suite au sex wars féministe, donc à ce débat au début des années 80, comme un partage des tâches au sein du féminisme, dans lequel une division du travail féministe, dans la mesure où il y a certains qui sont plus intéressés aux questions de plaisir, aux questions d'identité, des subcultures, etc., et d'autres qui se sont occupés beaucoup plus des questions de violence, de viol et de tout ce qui est dramatique dans le domaine de la sexualité. Après, nous avons observé à la fin des années 90, déjà, je donne l'exemple des Riot Girls, donc d'une culture, subculture musicale dans les années 90, qui, elle revendique justement un peu ce que disait Carol Vance, l'organisatrice du colloque qui a été attaquée par les anti-pornographiques, les féministes contre la pornographie, qui, elle disait qu'il faut prendre en compte les dangers et les plaisirs dans la sexualité, et on dirait que les Riot Girls, elles font ça. Elles revendiquent donc à la fois de pouvoir parler de leur expérience de violence, de vouloir contribuer à ce que ça cesse, et à la fois elles veulent que ça cesse parce que elles ont envie de s'épanouir. Et j'ai l'impression d'observer des mouvements un peu similaires dans la suite de MeToo aujourd'hui. J'ai l'impression que les féministes qui font les collages aujourd'hui, elles ont... Si elles s'expriment contre les violences qu'elles ont subies, si elles dénoncent ces violences-là, c'est précisément parce qu'elles ont envie justement de pouvoir s'épanouir plus librement, parce que c'est vrai que ce qui entrave la possibilité de jouir sans entrave, c'est entre autres aussi les violences sexuelles. Et je voulais juste ajouter que, en effet, par rapport à la question de est-ce que je choisis ma sexualité, non, il faut bien sûr toujours la voir dans le contexte des structures sociales comme tout autre choix, mais comment assumer aussi nos choix si on part de l'idée que nous sommes que 100% vraiment le pur produit des structures sociales, devenir une personne, revendiquer une individualité, ce qui a été souvent contesté aux femmes, ça consiste aussi dans la possibilité de pouvoir avoir le droit de dire oui à quelque chose.
Merci beaucoup Cornelia Moser. De vous, on peut lire donc Libération sexuelle, une histoire des pensées féministes et queer sur la sexualité. C'est paru aux éditions La Découverte, et d'autres ouvrages que nous mettrons en ligne sur notre site. Merci beaucoup. On se quitte avec Brigitte Fontaine.
Merci beaucoup.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit Emma, idem le barata. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. les curés en chaleur.
Et merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Sisbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Lord à l'Est, réalisation Louise André, prise de son Florent Bujon. On se retrouve demain pour oser se demander, a-t-on besoin des critiques pour savoir quoi lire ou quoi regarder? Et puis on se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram et bien sûr sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.